Le journal Jean-Michel Naga. Bonsoir Jean-Michel.
Bonsoir, bonsoir à tous. Baghdadi, le chef du groupe État islamique, est mort. Donald Trump l'a confirmé en début d'après-midi. C'était l'objectif du raid mené par les Américains la nuit dernière dans le nord-ouest de la Syrie. C'est une perte importante pour Daesh, mais rien de comparable avec l'élimination d'Oussama Ben Laden, disent ce soir les spécialistes. L'émotion après la découverte du corps de Sophie Letan, le collectif de soutien organisera une veillée le week-end prochain. Et la justice attend désormais les résultats de l'autopsie pour faire la lumière dans cette affaire, selon les premiers éléments. Jean-Marc Rézère avait tendu un piège à cette jeune étudiante de 20 ans. Encore un week-end de galère pour les usagers de SNCF, un trafic ferroviaire très perturbé, les intempéries dans le sud de la France bien sûr, mais aussi des mouvements sociaux en particulier dans l'ouest de la France, nous expliquera Caroline Félix. Le départ de la Transat Jacques Vabre, l'Afrique du Sud en finale de la Coupe du Monde de rugby et le Classico PSG-OM, ce sont les principaux titres du journal des sports ce soir. Il vous sera présenté par Jean-Pierre Blimeau.
France Inter.
Abou Bakr al-Baghdadi est donc mort. Comme un chien, ce sont les mots de Donald Trump pour annoncer fièrement la disparition de cet homme qui dirigeait le groupe État islamique. Il s'est fait exploser avec sa veste chargée d'explosifs. Le président américain assure que cette opération a été une totale réussite et qu'un grand nombre de combattants de l'État islamique sont morts au cours de ce raid dans le nord-ouest de la Syrie. Correspondance à Washington, Louis Glory.
Quelque chose d'énorme vient de se passer, voilà ce qu'affirmait hier sur Twitter, énigmatique, un Donald Trump visiblement impatient de prendre la parole. C'est chose faite et le président américain confirme la disparition du leader de Daesh. La nuit dernière, les États-Unis ont rendu justice au pire terroriste du monde. Abou Bakr al-Baghdadi est mort. Pas de préambule, le ton est solennel, mais les mots sont durs. Lorsque Donald Trump décrit cette opération menée, dit-il, par d'incroyables soldats face à de vicieux terroristes, Baghdadi, assure-t-il, est mort comme un chien. Le voyou qui mettait son énergie à intimider les autres a vécu ses derniers instants dans la peur, la panique les plus totales, effrayé, terrifié par les forces américaines qui fondaient sur lui. Un homme acculé qui se sera finalement fait exploser avec trois de ses enfants, les autorités attendaient un test ADN positif, affirme Donald Trump, pour confirmer la fin de cette traque qui aura duré des années. Capturer ou tuer Baghdadi était la priorité sécuritaire absolue de mon administration. Le président américain peut donc se féliciter, car si le monde n'est pas forcément, comme il l'assure, plus sûr qu'avant, eh bien cela n'en reste pas moins une victoire incontestable à un an de la présidentielle américaine. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et Donald Trump salue l'aide des partenaires sur cette opération, la Russie, la Turquie, la Syrie, l'Irak et les Kurdes. Les Kurdes qui s'attendent d'ores et déjà des représailles du groupe État islamique. Un commandant des forces démocratiques syriennes explique qu'il s'attend à tout, y compris des attaques contre les prisons où sont détenus des milliers de djihadistes. Car l'État islamique est touché, mais pas coulé. Les spécialistes le confirment ce soir. Ils reconnaissent que la mort de Baghdadi représente un coup terrible pour Daesh. Mais rien de comparable avec l'élimination d'Oussama Ben Laden il y a 8 ans pour Al-Qaïda. L'organisation djihadiste a les moyens de surmonter cette perte, nous dit Myriam Benrahad. Elle est politologue et spécialiste du Moyen-Orient.
Je ne pense pas qu'il faille y voir une victoire majeure pour ma part, pour la simple et bonne raison qu'on a déjà éliminé de grandes figures du djihadisme par le passé, à commencer par Ben Laden sous la présidence Obama, et qu'en réalité ces mouvements sont très structurés, assurent de longues années en fait avant leur succession, donc il y a déjà certainement des personnalités qui sont en place. Par ailleurs, l'insurrection a repris en Irak, en Syrie, les opérations se poursuivent. Donc on verra certainement un nouveau leader ou plusieurs nouveaux leaders émerger, comme on l'a vu par le passé.
Qui était d'ailleurs Abou Bakr al-Baghdadi? Vous nous le rappelez peut-être en quelques mots?
Oui, alors lui-même en fait est le successeur du premier leader de l'État islamique, c'est un Irakien. Et donc il appartient à la génération qui a fait ses armes pendant l'occupation américaine. Donc c'est pour ça aussi qu'il jouissait d'un charisme certain et qu'il avait pu rassembler autant autour de lui.
Myriam Benrahad, politologue, spécialiste du Moyen-Orient avec Bernard Thomasson sur France Info. Dernière réaction, celle d'Emmanuel Macron sur Twitter. La mort d'al-Baghdadi est un coup dur porté contre Daesh, mais ce n'est qu'une étape, dit-il. Le combat continue avec nos partenaires de la coalition internationale pour que l'organisation terroriste soit définitivement défaite. L'émotion et le soutien à la famille de Sophie Le Tan, c'est bien le corps de la jeune étudiante strasbourgeoise qui a été retrouvée mercredi dans une forêt du Bas-Rhin. Plus d'un an après sa disparition, les analyses ADN l'ont confirmé. Et le choc est rude pour toutes les personnes qui l'ont connue à Cernay, dans ce village où elle a grandi, où ses parents habitent toujours. Un collectif de soutien annonce une veillée de recueillement en mémoire de la jeune femme le week-end prochain. Les causes de la mort, elles, devraient être connues demain à l'issue de l'autopsie. Étape importante, bien sûr, avant le procès du suspect Jean-Marc Grézer, 59 ans. Il avait été arrêté quelques jours plus tard. Il continue de clamer son innocence malgré sa mise en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. Corinne Fugler.
Sophie Le Tan est visiblement tombée dans un piège. Une offre de location postée par Jean-Marc Grézer qui l'a amenée jusqu'à son appartement Rupert La Schiltigheim. L'homme a d'abord nié l'avoir reçu chez lui, puis quand les enquêteurs ont découvert dans son domicile des traces de sang appartenant à la jeune fille, il a modifié sa version. L'étudiante s'est blessée à la main, il l'a soignée et l'a laissée repartir. L'examen des restes trouvés en forêt permettra aux enquêteurs de comprendre comment le corps de l'étudiante a été démembré. Rappelons que des traces de sang ont été décelées sur une scie appartenant à Jean-Marc Grézer et que le portable du Chiliquois a borné à Grendelbruch peu après la disparition de l'étudiante. Son passé judiciaire aussi joue contre lui. L'homme a déjà connu les assises. Il a été condamné à 15 ans de prison pour viol en 2001 et acquitté au bénéfice du doute après la disparition d'une jeune fille à Strasbourg en 1987.
Corinne Fugler de France Bleu Alsace à Grenoble. C'est sans doute l'acte d'un déséquilibré. Ce jeune homme de 19 ans, natif d'Algérie, armé de deux couteaux de cuisine et qui criait à Allah Akbar tout en récitant une prière. Il a été interpellé aujourd'hui à la gare et hospitalisé ce soir en psychiatrie. Emmanuel Macron réagit à la polémique du voile qui continue d'animer le débat politique depuis deux semaines après l'incident au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. La mère voilée qui accompagnait des enfants lors d'une sortie scolaire. Le chef de l'État annonce sur RTL qu'il va rencontrer les représentants du Conseil français du culte musulman demain matin. Et puis cette petite phrase qui sème le trouble, celle de François Bayrou, ce matin invité de questions politiques sur France Inter au sujet des municipales à Paris. Le président du Modem invite la majorité présidentielle à choisir un plan B pour avoir une chance de conquérir la capitale. C'est son conseil pour mettre fin à la rivalité entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani. Cédric Villani qui indique aujourd'hui même avoir des échanges avec le candidat de centre-droit, l'élu du 18e arrondissement, Pierre-Yves Bournazel. Il exclut en revanche toute forme d'alliance avec l'actuelle maire socialiste Anne Hidalgo.
France Inter, Jean-Michel Naga.
Encore la galère pour de nombreux voyageurs ce week-end. Le trafic ferroviaire a été très perturbé encore aujourd'hui, conséquence des intempéries dans le sud de la France, bien sûr. Mais pas seulement, la SNCF a été confrontée à plusieurs mouvements de grève. Caroline Félix, bonsoir.
Bonsoir.
Faut-il s'attendre à de nouvelles difficultés dans les jours qui viennent?
Oui, sur la façade atlantique, la situation va nettement empirer. Demain, la SNCF prévoit 3 TGV sur 10 seulement, contre 8 sur 10 ce dimanche. Très peu de TGV donc en Bretagne, dans les pays de la Loire et au sud de l'Aquitaine. En cause, une grève locale à l'atelier de maintenance à Châtillon, au sud de Paris. Ce sont des électriciens, des mécaniciens qui d'habitude effectuent des contrôles de routine. Cette révision est obligatoire. Sans ça, les rames ne peuvent plus repartir sur les rails. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de trains qui roulent. Et même si les techniciens reprennent le travail demain, les perturbations vont continuer tout au long de la semaine. Il y a trop de contrôles en retard accumulés. La grève a commencé mercredi dernier, on le rappelle. Et une réunion est prévue demain avec la direction, assure la SNCF. Dans une moindre mesure, une grève touche les TER du Sud-Est ce dimanche. D'après la SNCF, 90% du trafic était assuré et le trafic devrait reprendre normalement demain.
Merci Caroline Félix. En Californie, 90 000 personnes évacuées et 180 000 autres sommées de quitter leur logement. Ça se passe dans la ville de Santa Rosa au nord de San Francisco. La zone est menacée par des incendies qui prennent de l'ampleur, Loïc Piala.
Les 72 prochaines heures vont être très difficiles, a prévenu le gouverneur de Californie hier. Comme prévu, les vents ont soufflé très fort dans le nord de l'État avec des pointes enregistrées à 150 km/h. Le Kincaid Fire, qui brûle depuis mercredi, continue donc d'avancer. La menace des flammes a poussé une grande partie des habitants de Santa Rosa, au sud de l'incendie, à évacuer, y compris l'un des hôpitaux de la ville. Une ville de 180 000 personnes, déjà durement touchée il y a deux ans par le Tubbs Fire qui avait fait 22 morts et détruit des milliers de maisons. Certaines viennent à peine d'être reconstruite. Cette évacuation massive a provoqué des embouteillages monstres en pleine nuit sur l'une des principales autoroutes de la région. Les centres d'hébergement sont pleins. Les pompiers font de leur mieux pour protéger Hedsburg et Windsor, deux petites villes au cœur de la région des vins, désertées depuis samedi après-midi. Un célèbre vignoble du secteur a été réduit en cendres. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Ça suffit, les rues sont à tout le monde, slogan entonné par 80 000 manifestants aujourd'hui dans les rues de Barcelone, des partisans de l'unité de l'Espagne mobilisés en réponse aux indépendantistes qui étaient 350 000 hier. Ils protestaient, eux, contre les condamnations à des peines de prison de leurs leaders séparatistes. En Italie, plus de 700 000 électeurs étaient appelés aux urnes pour un scrutin régional très symbolique aujourd'hui en Ombrie, au nord de Rome. Une élection qui a valeur de test au niveau national. C'est la première élection depuis que Matteo Salvini et sa Ligue ont quitté le pouvoir à Rome. Bruce de Galzin.
Il ne cesse de le répéter, c'est au peuple de décider. Matteo Salvini sera donc servi en Ombrie où pour la première fois depuis les élections européennes et ses 38%, les électeurs pourront s'exprimer. Et le désormais chef de l'opposition n'a aucun doute sur son succès.
Je parie que ce sera la première gifle pour cette majorité qui ne pense qu'à ses portefeuilles. Et l'Ombrie ne sera que le début. Nous gagnerons la Calabre, l'Émilie-Romagne, les Pouilles, la Toscane. J'ai hâte de voir si les comtés Renzi, Di Maio et Zingaretti feront encore comme s'il ne s'était rien passé.
La coalition de droite devance en effet celle de gauche dans les sondages. La gauche, qui gouverne depuis 50 ans la région, a choisi de s'unir derrière un seul candidat et Zingaretti, le secrétaire du Parti démocrate, Di Maio, le chef des 5 étoiles, et même Conte et le président du Conseil ont fait le déplacement ensemble. Mais Giuseppe Conte relativise déjà la portée de cette élection.
C'est un test régional. Chaque région a son importance. Nous parlons de 800 000 habitants, mais penser que le sort du gouvernement est suspendu au résultat d'une compétition territoriale n'a pas beaucoup de sens.
Mais si la gauche perd l'élection, l'alliance des 5 étoiles et du Parti démocrate pour les prochaines régionales sera sans doute remise en cause. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
C'était un dimanche d'élection également en Allemagne, dans la région de Thuringe. C'est une des plus petites régions au centre du pays et l'on assiste là à une forte poussée de l'extrême droite. Ça se confirme ce soir. 23 à 24% des voix selon les dernières estimations. C'est un nouveau succès qui se dessine pour l'AFD. Troisième succès en moins de 2 mois en ex-Allemagne de l'Est après les élections régionales en Saxe et dans le Brandebourg. En Argentine, Alberto Fernandez pourrait prendre la tête du pays dès ce soir. Le candidat péroniste est le grand favori de l'élection présidentielle face au chef d'État sortant, Macri, qui présente un bilan catastrophique sur ses 4 dernières années. Pauvreté, inflation, dévaluation de la monnaie. Les Argentins sont confrontés à la pire crise économique depuis 17 ans. Et puis en Belgique, pour la première fois, c'est une femme qui prend les rênes du gouvernement. Sophie Wilmès, 44 ans. Elle vient d'être nommée par le roi, première ministre par intérim, en remplacement de Charles Michel, qui doit prendre lui la présidence du Conseil européen. La mission de Sophie Wilmès ne sera pas facile puisqu'elle se retrouve à la tête d'une équipe sans majorité au Parlement. Jean-Paul Dubois, Jean-Luc Ouattalaem, Émilie Nothomb et Olivier Rollin, ce sont les 4 finalistes du prix Goncourt 2019. La liste a été dévoilée ce midi. Ilana Mor-Youssef était présente pour France Inter.
Midi pile au Grand Hôtel de Cabourg, tout le monde retient son souffle. Didier Decoin, le secrétaire général de l'Académie Goncourt, s'avance pour annoncer les noms des 4 finalistes par ordre alphabétique.
Jean-Luc Ouattalaem, La part du fils chez Stock. Jean-Paul Dubois, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, aux éditions de l'Olivier. Amélie Nothomb, Soif, Albin Michel. Et Olivier Rollin, Extérieur Monde, chez Gallimard.
Cette annonce a été faite dans un lieu éminemment symbolique. Marcel Proust avait coutume de séjourner ici.
C'est non seulement un lieu proustien, mais on célèbre cette année le 100e anniversaire de la remise à Marcel Proust de son prix Goncourt pour un livre dont je trouve que, en plus de ses qualités, il a le plus joli titre qu'on puisse imaginer, À l'ombre des jeunes filles en fleurs. C'est beau ça quand même. On a à s'honorer du fait d'avoir eu Proust comme lauréat. On se fait souvent engueuler en disant « vous avez laissé passer les grands auteurs », à celui-là on l'a pas raté.
Mais une polémique risque de surgir assez rapidement. L'an dernier, on se souvient que Le Lambeau de Philippe Lançon n'avait pas été sélectionné au motif que ce n'était pas de la fiction. Et voilà qu'Olivier Rollin figure parmi les finalistes alors que son livre « Extérieur Monde » est un livre de souvenirs. Bernard Pivot, un peu embarrassé.
D'une année sur l'autre, le jury manque de cohérence. Et oui, il faut bien que j'assume, parce que j'en suis le président.
À Cabourg, Ilan Amor Youssef, France Inter.
Et le lauréat du prix Goncourt sera désigné le 4 novembre. On repart tout de suite au PC Route de Radio France. Manon Vautier-Cholet, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Des ralentissements sur l'A7 ce soir.
Oui, en raison de ce fort trafic, des régulations ont été mises en place dans les deux sens de circulation, donc entre les villes de Lyon et d'Orange. Des limitations de vitesse sont abaissées sur certains tronçons. En région parisienne, ça se charge sur l'autoroute A13 avec une circulation très dense depuis le péage de Vaucresson jusqu'à la Porte Maillot, avec un accident à hauteur de Saint-Cloud à vous signaler. Trafic dense également sur la 6 A et B en direction des portes d'Orléans et d'Italie pour rejoindre le périphérique parisien. Il faut compter dans les deux cas une grosse demi-heure de route.
Merci Manon Vautier-Cholet au direct du PC Route de Radio France.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Et ça se rafraîchit, prévision signée Jean-Michel Golinski de Météo
un
France.
Un début de semaine dans la fraîcheur pour la moitié nord du pays, avec déjà un risque de gelée blanche en fin de nuit au nord de la Seine, et pas plus de 10 à 13 degrés au meilleur de l'après-midi des Hauts-de-France à l'Alsace, du Val-de-Loire au bassin parisien et de la Bretagne à la Normandie. Dans la moitié sud, les valeurs plus confortables vont afficher 16 en Rhône-Alpes, 17 à 18 de l'Auvergne au Limousin, 20 à 23 de l'Aquitaine à la Provence et 24 degrés sur la Corse. Les pluies qui ont survolé aujourd'hui une large partie nord vont continuer à arroser faiblement demain les régions centrales, de la Bretagne aux Charentes, du centre au Massif central et de Rhône-Alpes à l'Alsace. De part et d'autre, le ciel sera lumineux mais voilé par des nuages d'altitude plus denses de l'Aquitaine à la région PACA qu'au nord de la Seine. Et puis, à noter, les entrées maritimes dans le golfe du Lion, surtout en matinée, et l'arrivée de précipitations plus marquées par la pointe ouest en fin de journée.
19h17 sur France Inter, le journal des sports. Bonsoir Jean-Pierre Blimaud.
Bonsoir Jean-Michel.
C'est l'un des matchs paillettes de la saison de football, PSG et Marseille. Être au programme de la soirée pour clôturer la 11e journée de Ligue 1.
On l'appelle le Classico ou le Classique, hein, si vous le prononcez à la française, qui vous envoie 21h au Parc des Princes. En fait, c'est le dessert des trois matchs du jour, puisque tout à l'heure, Rennes a arraché la victoire contre Toulouse, 3-2. Saint-Etienne a arraché le match nul contre Amiens, 2-2. Et donc ce soir, ce duel annuel entre deux clubs qui entretiennent l'une des plus grandes rivalités du foot en France. Bonsoir Bruno Salomon.
Bonsoir Jean-Pierre.
Alors le Paris Saint-Germain, leader du championnat, même de nouveau privé de Neymar, fait figure de grand favori dans le sillage de Kylian Mbappé, de nouveau étincelant, on l'a vu en Ligue des Champions. On ne voit pas comment Paris pourrait trembler ce soir.
Oui, il est serein hein, ce Paris Saint-Germain. Jean-Pierre, vous faites bien de le souligner. Le classique fait toujours saliver hein, les joueurs du PSG. Mais l'OM ne fait plus trembler vraiment depuis bien longtemps le Paris Saint-Germain. 19 rencontres sans défaite pour le PSG face à Marseille. Imaginez, depuis novembre 2011, Paris n'a plus perdu face aux Olympiens. La moindre rencontre hein, face à cette ennemi sportif. Et ce soir, mis à part un scénario assez improbable, on ne voit pas comment le PSG pourrait mettre genou à terre face à l'OM, tant les Di Maria, Icardi ou encore Mbappé, et je ne vous parle là que des attaquants, sont en forme et pourraient faire très très mal, Jean-Pierre, à cet OM.
Alors c'est un match de championnat, on l'a dit, mais c'est un PSG qui doit jouer en mode Ligue des Champions. C'est le sentiment de l'entraîneur Thomas Tuchel. Il l'a expliqué en conférence de presse.
C'est comme un match en Ligue des Champions, c'est comme un match en demi-finale, finale de Coupe de France, c'est comme ça, c'est un match avec une grande histoire. Pour moi, c'est absolument nécessaire qu'on respecte cette histoire pour notre supporter, parce que c'est très important pour eux. Mais on aime cette ambiance et une atmosphère comme ça. Je suis convaincu que nous sommes prêts pour combattre avec eux.
Alors Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, aura face à lui une équipe de l'OM qui, dans ce contexte, a une chance de briller ce soir. Il y a même une vraie carotte, Bruno, montée sur le podium. Alors là, il faudrait un exploit.
Oui, effectivement, hein, même si sur le papier hein, c'est du 80-20 en faveur du PSG, c'est vrai que la carotte est belle hein, pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. Imaginons, Marseille s'impose ce soir face au PSG, outre le soulagement des fans qui pourraient même bien faire la fête du côté de la Canebière, eh bien l'OM pourrait s'installer sur le podium. André Villas-Boas, l'entraîneur olympien hein, qui va vivre son premier classique, le sait bien et il espère que le retour de Dimitri Payet, son maître à jouer, va permettre à cet OM, eh bien, à écrire, pourquoi pas, une belle histoire de ce classique entre le PSG et l'OM.
Merci Bruno Salomon, Dimitri Payet qui sera donc titulaire. Et puis, vous savez, il y a un classico féminin aussi, hasard du calendrier, qui avait lieu, Jean-Michel, cet après-midi à Marseille. Eh bien, le Paris Saint-Germain est allé s'imposer 5-0.
Ça fait mal. Le rugby, la Coupe du Monde au Japon, on connaît déjà l'affiche là, de la finale. Ce sera Angleterre, Afrique du Sud.
Après la victoire des Anglais contre les All Blacks de Nouvelle-Zélande hier, ce sont les Sud-Africains qui se sont imposés ce matin face au Pays de Galles dans un match très indécis, 19-16 au final. Alors un essai de part et d'autre, mais une pénalité qui gagne en fin de match pour l'Afrique du Sud, qui prive les Gallois de leur première finale. L'Afrique du Sud qui va retrouver l'Angleterre en finale. C'est d'ailleurs plutôt logique. Voici pourquoi, explique le consultant rugby pour France Inter, Guy Akoseberi.
En début de compétition, on citait surtout la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre et l'Afrique du Sud parmi les trois grands favoris. Après, on savait que le Pays de Galles, d'autres équipes n'étaient pas trop loin, mais c'était vraiment ces trois-là qui se dégageaient. Voilà, on en retrouve deux sur les trois, donc c'est logique.
Avec deux grosses défenses donc qui vont se retrouver en finale, ça promet un match disputé, Guy Akoseberi.
Oui, des équipes très physiques des deux côtés. Là, on se rend compte quand même que sur les phases finales de cette Coupe du Monde, c'est le physique qui prend le dessus. On espérait avoir une Coupe du Monde. On l'a eu d'ailleurs pendant les poules, on a eu quelques matchs intéressants avec beaucoup de jeux, de vivacité, de prise d'espace, d'essais. Là, sur ces phases finales, c'est vraiment, que ce soit les Anglais hier ou aujourd'hui les Sud-Africains, c'est deux équipes très très physiques, ça va taper très fort. Je pense que ça se jouera à pas grand chose, même si les Sud-Africains n'ont pas été brillants aujourd'hui. Ils ont même pu perdre. Je pense que le week-end prochain, ils vont nous montrer un autre visage. Et le match sera à la fois intéressant, physique et indécis.
Guy Akoseberi, consultant rugby pour France Inter, au micro d'Edouard Marguet. Alors la finale, ce sera samedi à 10h française, puisque c'est au Japon, hein, vous le savez, Jean-Michel.
Oui.
Et match pour la troisième place, la veille, vendredi à 10h, si vous êtes au bureau, amenez votre télé.
Voilà, on l'appelle aussi la route du café. La Transat Jacques Vabre est partie à la mi-journée.
Le départ de la 14e édition de cette Transat en double a été donné à 13h15. Les concurrents quittaient le Havre pour rallier Salvador de Bahia au Brésil. Départ idéal, sans erreur pour aucun des participants, même si le plus dur va commencer dans les heures qui viennent, Fabrice Rigobert.
Après un départ idéal dominé par le PRB de Kevin Escoffier et Nicolas Luneven à la bouée Normandie devant Etretat, les marins vont maintenant se concentrer sur la sortie de la Manche. Un premier écueil nous confiait Pascal Bidégory, co-skipper de 11e heure.
Sortir de Manche, c'est pas anodin, il y a des cargos dans tous les sens, on a deux TSS à traverser. Enfin, les DST, c'est les zones de séparation de trafic des cargos. Il y a des cailloux, il y a des changements de voile à faire en plein milieu de la nuit. La première nuit, on va pas dormir. On va rentrer dans le golfe de Gascogne. On va se faire un peu cueillir par l'état de la mer qui va aller en forcissant. Il faut arriver à s'extirper de tout ça sans encombre.
À cette vigilance va s'ajouter la pression du choix tactique que les navigateurs vont devoir faire dans les prochaines heures. Un choix météo peut-être décisif pour contourner une dépression installée sur les Açores. Jérémy Bayou, le skipper de Charal, l'un des monocoques semi-volants.
Est-ce qu'on part cap ou nord-ouest pour contourner tout le phénomène dépressionnaire dans du vent très fort? Ou est-ce qu'on essaie de trouver une route alternative en travers du golfe de Gascogne, qui est une route plus directe, peut-être moins rapide? Potentiellement, il peut y avoir deux groupes qui vont se scinder et recroiser au bout d'une semaine ou plus, quoi. Donc ça peut laisser pas mal de suspense quasiment jusqu'au bout.
Aller vite, le plus vite possible, sans casser sa monture. Les marins vont se relayer sans relâche pendant deux semaines dans cette cavalcade à travers l'Atlantique, sur un parcours similaire à la première partie du Vendée Globe que tous les navigateurs ont en point de mire. Le Havre, Fabrice Rigobert, France Inter.
Et au classement pour l'instant de la principale catégorie, les multi-50, c'est Thibaut Vauchel-Camus et Fred Dutille qui sont en tête. Et puis les IMOCA, c'est-à-dire les bateaux de type Vendée Globe, Kevin Escoffier et Nicolas Leneven.
On passe au tennis. Roger Federer continue de briller.
Oui, et c'est à Bâle. Pour la 10e fois, il emporte le tournoi chez lui, là où il a débuté le tennis. Il a battu en finale l'Australien Alex de Minaur, 28e joueur mondial, en 2-7. 6-2, 6-2, c'est surtout la 103e victoire en ATP pour Federer, qui n'est plus qu'à 6 tournois du record légendaire de Jimmy Connors.
Le tennis toujours, mais à Paris, après deux jours consacrés aux qualifications, le Masters 1000 de Bercy débute demain avec un plateau de qualité.
Oui, on peut le qualifier comme tel, puisque 15 ou 16 des 17 meilleurs joueurs du monde vont faire le déplacement. Je dis 15 ou 16 parce qu'il y a une incertitude sur Roger Federer qui prendra sa décision demain. Enfin, s'il est là, avec Nadal et Djokovic, eh bien, E3, elle totalise 55 titres du Grand Chelem. Et comme l'an passé, le tournoi devrait constituer un choc de génération entre les trois géants et des jeunes comme Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Dominic Thiem ou encore Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Karen Khachanov, le tenant du titre, et j'en passe. Guy Forget fait de Djokovic, Nadal ou Federer les favoris, mais il s'attend à ce que ces joueurs soient bousculés par la nouvelle génération.
Et la place numéro 1 mondial, on sait après le Masters qui peut se jouer, il y a 1000 points à gagner sur Rolex Paris Master, et on sait que Nadal, Djokovic peuvent se passer l'un devant l'autre. Il y a des places pour le Masters encore, ils sont plusieurs à pouvoir se qualifier pour Londres. Il y a la Coupe Davis qui arrive derrière aussi, avec des joueurs français qui vont avoir envie, de devant leur public, de galaner de la confiance. Il y a la nouvelle génération qui arrive enfin à grands pas, avec des joueurs qui ont déjà fait de grosses surprises dans les mois précédents. Et qui, parmi ces jeunes garçons, va reprendre le flambeau et essayer de faire trébucher les Rafael Nadal, Roger Federer, Djokovic. Je crois que là, on a commencé à voir avec Dany Medvedev, un petit peu avec Zverev à un moment donné. Et il y en a d'autres, Berrettini, là, des garçons qui frappent très fort sur la table et qui on sent vraiment envie de s'imposer. Alors, on va dire, entre guillemets, hein, les anciens font de la résistance. Je crois que ce Rolex Paris Masters va nous donner finalement quelques indications assez intéressantes sur ce qui va se passer, non seulement sur le Masters, mais sur la saison 2020.
Guy Forget, le directeur de ce Masters 1000 de Paris-Bercy, au micro de Fabrice Abgral. Alors, il y a 8 Français à l'affiche, 4 vont jouer demain, Jérémy Chardy, Benoît Paire à partir de 16h et en gros à partir de 19h30, Joe Wilfried Tsonga et Adrian Manarino.
La saison de ski alpin a débuté ce week-end en Autriche et les Français Cocorico ont brillé.
Hier, Tessa Wehrlein a pris la 3e place du géant de Solden. Aujourd'hui, dans la course masculine, doublé tricolore. Alexis Pinturo s'impose devant Mathieu Fèvre. Alexis Pinturo a même fini avec une bonne marge, une demi secondes d'avance sur son compatriote. De très bon augure, hein, quand on sait qu'après la retraite de Marcel Hirscher, la porte est ouverte pour sa succession en Coupe du Monde. Alexis Pinturo.
Oui, très bon moyen de commencer l'hiver. C'est sûr que c'est toujours quelque chose de beau, quelque chose de grand, surtout en début de saison. Ça permet de donner un peu de baume au cœur et de savoir si on a bien travaillé, quoi. Mais je pense que tout l'hiver, il y aura un peu plus d'attente, un peu plus de pression sur tous les athlètes qui tournaient autour de Marcel, sur tous les top favoris en dehors de Marcel. Donc voilà, ces athlètes-là, automatiquement, au lieu qu'il y ait beaucoup de choses qui se concentrent sur Hirscher comme c'était par le passé, maintenant ça s'est un peu plus réparti sur les athlètes qu'il pouvait y avoir autour. Et j'en fais partie. Donc j'en étais conscient. Maintenant, je fais avec. Je sais aussi qu'il faut tout simplement skier vite, parce que si on ne le fait pas, les autres le feront.
Alexis Pinturo, vainqueur du géant de Solden en Autriche. Prochaine étape de la Coupe du Monde de ski alpin, les 23 et 24 novembre en Finlande.
On revient à Paris, où les internationaux de France de badminton se sont achevés aujourd'hui.
La victoire du chinois Long Chen dans le tableau masculin, la coréenne Se Young s'impose dans le tableau féminin, mais c'est l'occasion de rappeler qu'en France, le badminton fait partie des 3 sports les plus pratiqués à l'école. 190 000 licenciés, 170 000 dans des associations scolaires. Peut-on s'appuyer sur les jeunes pour rayonner sur la scène internationale? Adèle Belloumri.
Le projet Ambition 2025 de la Fédération française de badminton est clair, obtenir des médailles. Ronan Labarre est quintuple champion de France et a été professeur de PS pendant 3 ans. Pour lui, l'école est un véritable vivier sur lequel s'appuyer pour former des futurs champions.
On se rend compte que les enfants aiment ce sport. Et donc voilà, il faut réussir à leur donner goût, à leur donner l'esprit de compétition un petit peu, pour que ces joueurs ne restent pas seulement au niveau loisir scolaire, mais deviennent des compétiteurs au sein de la fédération.
À part une médaille de bronze glanée en 2009 au championnat du monde, la France n'a rien à se mettre sous la dent sur la scène mondiale ou olympique. Pourtant, comme l'explique le président de la fédération, Florent Chaillet, cela pourrait changer grâce à ces nouveaux talents.
Nous avons actuellement des résultats que nous n'avons jamais eus encore. Mais ces résultats, nous les avons chez des athlètes qui sont plutôt jeunes. Par exemple, Christo Popov vient d'avoir une médaille d'argent au championnat du monde junior. Donc, c'est évident que Christo Popov n'a aucune chance de pouvoir avoir une médaille à Tokyo. Mais au contraire, personne ne peut dire qu'il n'aurait aucune chance d'en avoir une en 24 à Paris.
La France n'a jamais dépassé les quarts de finale au badminton, aux Jeux Olympiques, mais peut-être que la nouvelle génération de fous du volant peut se permettre de rêver à l'horizon 2024.
Adil Belloumri pour France Inter, et puis un petit mot de Formule 1 quand même, le Grand Prix du Mexique. Pole position finalement pour Charles Leclerc devant Sébastien Vettel, 2 Ferrari sur la première ligne, parce que Max Verstappen, qui avait réalisé le meilleur temps des essais, a été déclassé de 3 places. Coup d'envoi de ce Grand Prix vers 20h30, je crois, au Mexique.
Merci Jean-Pierre pour ce journal des sports très complet.